Chapitre 61. Plaine d'Ilium. Manmut arriva sur la colline Batier alors que 9 hautes silhouettes noires sortaient du vaisseau spatial qui venait d'atterrir au sein du nuage de frelons, descendant la rampe parmi les volutes de poussière tourbillonnante. Il s'agissait d'humanoïdes aux allures d'insectes, mesurant 2 mètres de haut, caparaçonnés dans une armure de duraplace luisante et chitineuse, et coiffés d'un casque réfléchissant qui évoquait un globe en onyx. Leurs bras et leurs jambes rappelèrent à Manmut les appendices d'un bousier tel qu'il les avait vus en image. Des membres noirs distordus, barbelés, épineux, menaçants. Chacun d'eux portait une arme au dessin complexe, muni de plusieurs canons, qui semblaient peser au moins 15 kilogrammes. Celui qui était à leur tête fit halte au sein des nuées de poussière et se tourna vers Manmut.
« Toi, le petit Moravec, sommes-nous sur Mars ?»
Sa voix amplifiée s'exprimait en anglais de base interlunaire sur faisceau cohérent et par onde sonore.
« Non !» répondit Manmut.
« Ah bon ? Nous sommes pourtant censés être sur Mars. »«
Non !»
répéta Manmut, prenant soin de transmettre l'échange à Orphu.
« Ceci est la Terre. Je crois. »
La haute silhouette martiale secoua sa tête casquée, comme si une telle réponse était inacceptable.
« Quel type de Moravec es-tu ? Calistan ?»
Manmut se dressa de toute sa taille de bipède.
« Je suis Manmut d'Europe, naguère commandant le submersible explorateur La Dame Noire. Voici Orphu Dio. »
« N'est-ce pas un Moravec configuré pour le vide spatial ?»«
En effet. »
« Que sont devenus ses yeux, ses capteurs, ses manipulateurs et ses pattes ? Qui a fissuré ainsi sa carapace ?»«
Orphu est un vétéran, » déclara Manmut.
« Nous sommes censés nous présenter à un Ganymédéen du nom de Coros III, »
reprit la silhouette en armure.
« Conduis-nous à lui. »
« Il a été détruit. En service commandé. »
La grande silhouette noire hésita. Elle se tourna vers les 8 autres guerriers d'Onyx et Manmut se dit qu'il devait s'entretenir par faisceau cohérent. Le soldat de tête se retourna vers lui.
« Conduis-nous au Calistan nommé Ripo, » ordonna-t-il.
« Détruit, lui aussi. » « Avant que nous ne poursuivions, qui êtes-vous ?»«
Ce sont des Rokvec, »
transmis Orphu sur son canal privé.
« N'êtes-vous pas des Rokvec ?»
demanda l'Ionien sur le canal général. Cela faisait si longtemps qu'Orphu ne communiquait qu'avec le seul Manmut que celui-ci fut choqué d'entendre sa voix accessible à tous.
« Nous préférons l'appellation Moravec de la ceinture, »
dit le chef du département en se tournant vers la carapace d'Orphu.
Nous devrions t'évacuer vers un centre de réparation d'urgence, l'ancêtre.
Il fit un geste en direction de ses camarades et ceux-ci se dirigèrent vers l'Ionien.
Stop !
Ordonna Orphu d'une voix dont l'autorité était telle qu'elle paralysa les géants beauté.
Je déciderai moi-même du moment où je quitterai le théâtre des opérations. Et ne m'appelez pas l'ancêtre, ou je transforme vos tripes en jarretière. Coros III était à la tête de cette mission. Il est mort. Ripo était son second. Il est mort. Ne reste au poste de commandement que Manmut d'Europe et moi-même, Orphu Dio. Quel est votre grade, Rokvec ?
Centurion en chef Mep Ahou, mon commandant.
Mep Ahou ? Songea Manmut.
Je suis bien votre commandant, déclara Orphu. La chaîne de commandement est-elle clairement définie, soldat ?
Oui, mon commandant.
« Faites-nous savoir ce que vous faites ici et pourquoi vous pensez être sur Mars, »
dit Orphu. Sa voix était d'une sécheresse absolue. Manmut la croyait sur le point de passer en mode subsonique tellement elle était basse.
« Exécution, centurion en chef Mep Ahou, »
ajouta Orphu. Le Rokvec expliqua la situation à un débit précipité tandis que de nouveaux frelons quadrillaient le ciel et que des centaines de guerriers troyens émergeaient de la ville pour se diriger lentement vers les nouveaux venus, brandissant leurs lances et leurs boucliers. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres au sud, Achéens et Troyens s'engouffraient en masse dans le portail circulaire pour foncer au pas de course vers les flancs enneigés d'Olympos, visibles à travers la tranche découpée dans le ciel et la terre. Le centurion en chef Mep Ahou sut se montrer succinct. Il confirma le récit naguère fait par Orphu lorsque le vaisseau des Moravec en route pour Mars avait survolé la ceinture des astéroïdes. 60 années auparavant, Astik-Tché, le Moravec de Pouil, et le consortium des Cinq Lunes avaient envoyé Coros III, le Ganymédéen, en mission dans la dite ceinture. mais c'était une mission de diplomatie et non d'espionnage. Koros avait passé plus de 5 ans dans cette région de l'espace, allant de caillou en caillou et perdant le plus clair de ses troupes de soutien, entamant des négociations avec les féroces chefs de clan Rokvec et leur faisant part de l'inquiétude qu'inspirait au scientifique mort avec Jovien, la terraformation accélérée de Mars et les signes d'activité quantique qu'on commençait à y détecter. Les Rokvec voulaient savoir qui était responsable de l'ouverture de tunnels TQ, des postes humains venus de la Terre. Koros III et les Moravec de la ceinture convinrent de parler d'EMI, entité martienne inconnue. Les Rokvec étaient déjà en état d'alerte, davantage à cause de la terraformation de Mars, aussi visible qu'impossible, que de l'activité quantique que leur technologie ne détectait que malaisément. Plus agressifs de nature que les Galiléens, ils avaient déjà envoyé sur Mars 6 flottes de spationnefs. Aucun de ceux-ci n'était revenu, pas un n'avait seulement réussi à se mettre en orbite martienne. Quelque chose sur la planète rouge, si on pouvait encore l'appeler ainsi, détruisait en chemin les corps expéditionnaires et les Rokvec n'avaient aucune idée de la nature de leur adversaire. Accomplissant des prouesses en matière de diplomatie, de ruse, de courage et de force physique, Koros III avait fini par gagner la confiance des chefs de clan Rokvec. Le Ganymédéen leur avait alors exposé le plan du consortium des 5 lunes. Primo, au fil des 50 prochaines années, les Rokvec allaient concevoir et biomanufacturer des Moravec de guerre, en partant de leur ADN déjà orienté dans ce sens. Ils se verraient également confier la construction d'engins de guerre aérospatiaux. Pendant ce temps, les scientifiques et les ingénieurs Moravec des 5 lunes, détournant les ressources technologiques affectées à leur programme interstellaire, allaient fabriquer leurs propres tunneliers quantiques et stabilisateurs de trous de verre. Secondo, le moment venu, à savoir lorsque l'activité quantique martienne atteindrait un niveau alarmant, Koros en personne quitterait l'espace jupitérien à la tête d'un petit contingent de Moravec afin de gagner la planète rouge sans être détecté. Tertio, une fois sur Mars, Koros III placerait le tunnelier quantique au centre de l'activité TQ, non seulement stabilisant les tunnels déjà utilisés par les EMI, mais en ouvrant d'autres sur la ceinture des astéroïdes où des tunneliers conçus par le consortium attendraient d'être activés par son signal Maser. Quarto, enfin, les Rokvec enverraient leur flotte et leurs combattants sur Mars via ces tunnels quantiques, charge pour eux d'affronter, d'identifier, de vaincre, de soumettre et d'interroger les entités martiennes inconnues et d'éliminer cette activité quantique excessive qui représentait une menace pour le système solaire.
Ça a l'air tout simple, commenta Manmuth. Affronter, identifier, vaincre, soumettre et interroger. Mais, en fait, votre corps expéditionnaire n'est même pas arrivé sur la bonne planète.
La navigation des tunnels quantiques s'est révélée plus délicate que prévu,
expliqua le centurion en chef Mep Ahu.
Selon toute évidence, nos groupes se sont connectés à l'un des tunnels existants des EMI et ont dépassé Mars pour arriver ici.
Le guerrier en chitine couleur onyx regarda autour de lui. Ses soldats levaient leurs lourdes armes vers la centaine de Troyens qui arrivaient en haut de la colline.
« Ne leur tirez pas dessus !» prévint Manmuth. « Ce sont nos alliés. »«
Vos alliés ?»
Le Rokvec tourna sa visière étincelante vers la muraille mouvante de javelines et de boucliers. Puis, d'un hochement de tête, il ordonna à ses troupes d'abaisser leurs armes complexes. Les Troyens ne les imitèrent pas. Heureusement, Manmuth reconnut le capitaine qui les commandait et auquel on l'avait présenté plus tôt dans la journée.
« Halte, ô Périm, fils de Mégas !» lança-t-il en grec ancien. « Ces êtres noirs sont nos amis et nos alliés !»
Javeline et bouclier ne bougèrent pas d'un pouce. Derrière la première ligne, les archers bandaient leurs arcs, prêts à décocher leurs traits quand on leur en donnerait l'ordre. Les Rokvec étaient peut-être invulnérables à leurs puissantes flèches empoisonnées, mais Manmuth ne tenait pas à éprouver de cette façon la résistance de son propre tégument.
« Nos amis et nos alliés !»
railla Périm. Son casque de bronze impeccablement briqué, du timbre à la visière, du couvre-nuque à la mentonnière, ne laissait voir que ses yeux furibonds, ses lèvres pincées, son menton buté.
« Comment pourraient-ils être nos amis et nos alliés, petits jouets, quand ils ne sont même pas des hommes? Et d'ailleurs, comment le pourrais-tu ? »
Manmuth n'avait pas de réponse satisfaisante à lui donner.
« Tu m'as vu avec Hector ce matin, fils de Mégas, » hasarda-t-il.
« Je t'ai également vu avec Achille, le tueur d'hommes, »
répliqua le Troyen. Les archers avaient levé leurs armes, et Manmuth compta 30 flèches braquées sur les Rokvek et sur lui-même.
« Comment puis-je gagner la confiance de ce type ? »
demanda-t-il à Orphu.
« Périm, fils de Mégas,
fit l'Ionien.
Si nous laissions les choses suivre le cours que leur a tracé l'Iriade, Périm périrait dans 2 jours, tué par Patrocle lors d'un sanglant combat en même temps qu'Otonus, Échecle, Adraste, Hélas, Moulios et Pilartès.
Eh bien, rétorqua Manmuth, nous ne disposons pas de ces 2 jours. La plupart des Troyens que tu viens d'énumérer, Otonus, Moulios, etc., se tiennent devant nous, prêts à lancer leurs javelines. Et ça m'étonnerait que Patrocle soit en mesure de nous aider, vu ce que nous a dit Hockenberry, à moins que l'ami cher au cœur d'Achille ne soit revenu de l'Indiana à la nage. Des idées sur ce qu'on pourrait faire, maintenant ?
Dis-leur que les Rokvek sont des servants, forgés par Héphaïstos et invoqués par Achille pour nous aider à triompher des dieux.
Des servants, répéta Manmuth en grec ancien. Voilà un terme qui m'est peu familier. Il ne signifie ni serviteur, ni esclave, et...
Fais ce que je te dis avant que Périm t'ait planté sa javeline dans le foie.
Manmuth n'avait pas de foi, mais il comprit le bien fondé de cette suggestion.
Périm, noble fils de Mégas, lança-t-il, ces êtres noirs sont des servants, forgés par Héphaïstos et invoqués par Achille pour nous aider à triompher des dieux.
Périm eut un regard mauvais.
Es-tu donc un servant, toi aussi ?
Dis-lui oui, suggéra Orphu.
Oui.
Périm aboya quelque chose et ses hommes abaissèrent leurs armes.
Selon Homère, expliqua Orphu, les servants sont des sortes d'androïdes forgés par Héphaïstos à partir d'organes humains, utilisés à la façon de robots par les dieux ainsi que par certains mortels.
Es-tu en train de me dire qu'on trouve des androïdes et des Moravec dans l'Iliade ?
Demanda Manmuth.
On trouve de tout dans l'Iliade, répliqua Orphu. Centurion en chef Mepahu, avez-vous apporté des projecteurs de champ de force dans ce vaisseau ?
Demanda-t-il ensuite au guerrier Rokvek. Celui-ci se redressa de toute sa taille.
Oui, mon commandant.
Envoyez un peloton dans la cité, dans cette ville, Ilium, afin qu'il y déploie un projecteur de champ de force pleine puissance pour la protéger,
ordonna Orphu.
Déployez-en un autre pour protéger le campement achéen que vous voyez le long de la côte.
Pleine puissance, mon commandant ?
Demanda le centurion en chef. Manmuth se dit qu'il faudrait mobiliser toutes les ressources du réacteur à fusion du spationef pour alimenter un tel dispositif.
Pleine puissance, confirma Orphu. Votre champ doit repousser les lasers, les masers, les missiles balistiques, les missiles de croisière, les armes nucléaires et thermonucléaires, les bombes à neutrons, à plasma et à antimatière, ainsi que les lances et les flèches. Il s'agit de nos alliés, centurion en chef.
À vos ordres, mon commandant.
La silhouette d'Onyx se retourna pour lancer un message. Une douzaine de soldats supplémentaires descendirent la rampe, porteurs de projecteurs massifs. Leurs camarades les rejoignirent, l'ensemble se divisant en 2 pelotons qui s'éloignèrent au pas de course, jusqu'à ce que seul le centurion en chef Mepahu resta au sommet de la colline avec Manmuth et Orphu. Les frelons qui avaient atterri redécollèrent pour quadriller la zone, toute arme dehors. Périm s'approcha. Le cimier de son casque briqué mais cabossé arrivait à peine à la hauteur du torse ciselé du centurion en chef. Levant le poing, Périm tapota le plastron en duraplast du Rokvek.
Intéressante armure, déclara-t-il.
Se tournant vers Manmuth.
Petit servant, nous partons combattre aux côtés d'Hector. Veux-tu te joindre à nous ?
Il désigna le gigantesque portail ouvert au sud. De nouvelles unités troyennes et achéennes marchaient vers lui. Elles ne couraient pas, mais marchaient en ordre, bannières au vent et chars étincelants. Et les pointes de leurs lances accrochaient le jour terrien d'un côté du seuil, la lumière martienne de l'autre.
« Oui, répondit Manmuth. Je veux me joindre à vous. Est-ce que ça ira, l'ancêtre ?
Demanda-t-il à Orphu.
Le centurion en chef Mepahu est là pour me protéger,
répliqua l'Ionien. Se rangeant aux côtés de Périm, Manmuth dévala la pente, les buissons qui poussaient sur celle-ci avaient fort souffert durant les 9 années de conflit, pour aller rejoindre Hector. Alors que le petit contingent troyen arrivait au pied de la colline Batier, une silhouette des plus surprenantes se dirigea vers lui. un homme entièrement nu, aux cheveux en bataille et aux yeux un peu fous. Il avançait prudemment, évitant les plus grosses pierres afin de ne pas abîmer davantage ses pieds en sang, et il n'avait sur lui qu'un médaillon.
« Auchenberry ?»
fit Manmut. Il n'en croyait pas ses circuits de reconnaissance visuelle.
« Présent !» répliqua le scoliath en souriant.
« Salut, Manmut !»
Il passa au grec.
« Salut à toi, Périm, fils de Mégas. Je suis Auchenberry, fils de Duane, ami d'Hector et d'Achille. Nous avons fait connaissance ce matin. T'en souviens-tu ?»
C'était la première fois de son existence que Manmut voyait un être humain tout nu, et il espérait que cette expérience ne se reproduirait pas de sitôt.
« Que vous est-il arrivé ? »
demanda-t-il.
« Où sont vos vêtements ?»«
C'est une longue histoire, » répondit Auchenberry. « Mais je pense être en mesure de vous en donner une version condensée avant que nous n'ayons traversé ce trou dans le ciel. »
S'adressant à Périm,
« Fils de Mégas, l'un de tes guerriers pourrait-il me prêter des vêtements par hasard ?»
Périm avait visiblement reconnu Auchenberry et il se rappelait le respect que lui avaient manifesté Achille et Hector lors de la réunion stratégique avortée de la colline Bathier. Il se tourna vers ses hommes et aboya
« Des amis pour ce seigneur! La plus belle cape! Les sandales les plus neuves! La meilleure armure! Les jambières les mieux briquées! Et la culotte la plus propre !»
Autonous s'avança d'un pas.
« Nous n'avons ni habits, ni armure, ni sandales de rechange, ô noble Périm !»
Alors fous-toi à poil et donne-lui les tiens et que ça saute !»
beugla le commandant troyen.
« Mais écrase d'abord tes bus ! C'est un ordre !»